Voilà, puisque on reste Scalzone, on vous le disait en introduction de cette émission, est en grève de la faim depuis le 7 avril. Et donc hier soir, on est allé rencontrer Oreste et puis lui demander un petit peu de nous expliquer, de nous éclairer un petit peu sur le cadre dans lequel il avait entamé cette grève de la faim.
Quelles sont les raisons, tu m'avais demandé, non? Les objectifs. Alors, je pourrais le dire en partant des questions générales ou en partant de ma sphère personnelle de proximité locale, presque intime. Je ne sais pas, souvent c'est difficile. Si tu commences à parler des grandes thématiques, les gens te regardent en disant, ah, bah, qu'est-ce que tu racontes? Vient au point, qu'est-ce que ça a à faire un discours sur l'obsession pénale qui monte dans le monde et ta grève de la faim? Ça sera difficile que tu arrives à montrer tous les enchaînements. Si tu parles de ton problème local, dont je parlerai par exemple les réfugiés italiens menacés, on te regarde comme du bon, alors c'est un affaire de famille presque privée et tout. Bon, je vais dire une chose. Partons de ce local, c'est moins important. Mais tu sais, il faut toujours savoir si on a une grave maladie, qu'au même instant, il y a des centaines de millions de nos semblables, des gens de la race humaine, d'hommes ou de femmes qui peut-être sont encore plus dans la détresse ou qui sont en train de mourir. Mais évidemment, ça serait une forme d'aliénation et de folie. Considérer arriver à une espèce d'ascèse qui considère sa propre maladie au point de vue statistique, ça signifierait sortir vraiment de soi-même. Et vice-versa, il faut toujours savoir que ce n'est pas avec toi qui commence et termine le monde, que en soi, c'est statistique. Il faut toujours être un peu en équilibre entre les deux. Donc, je parle de notre local qui est bien connu, c'est une question plus modeste, pour beaucoup de monde peut-être considéré de détail, mais tout le monde connaît cette longue histoire des réfugiés italiens. Tout le monde sait qu'il s'est produit à partir de 81 une espèce de conjonction heureuse qui a fait qu'on s'est trouvé à pouvoir jouir d'un espace qui s'était ouvert, une chance. On ne l'aurait pas imaginé avant 81, quand on était peut-être qui en cavale, qui en clandestinité, qui en tôle, qu'on aurait pu trouver un ubicon system, une espèce de morceau de terre à côté, dans lequel pouvoir se poser sans être traqué. Quand moi et ma femme et ma fille, on était partis, après ma mise en liberté pour raison médicale, un peu comme si c'était une application de la loi Kouchner, et que j'étais donc quand même toujours accusé d'insurrection armée contre l'État et de toutes les autres choses, et qu'on est parti, pour des raisons de hasard, des rencontres, des filières. On avait pu arriver au Danemark, ça nous faisait le point plus lointain auquel on pouvait arriver. Et puis, si on nous avait demandé, on aurait pensé, bah, on partira, on ne sait pas, avec des faux papiers, peut-être au Mexique, peut-être au bout du monde, loin, comme ça. Et puis, c'était ouverte cette possibilité, la France terre d'asile, etc. Parce que ce n'était pas une promesse. Une personne nous l'a promis à nous. Et ce n'était pas parce qu'on nous aimait. Ça faisait partie des enjeux de surdétermination de la politique, la sangombolique, une politique que Mitterrand jouait. C'était une divine surprise. Ça a fait en effet appel d'air. Et autant que nous, qu'on est revenus ici du Danemark, il y a des gens qui sont arrivés ici d'Italie en passant les montagnes, il y a des gens qui sont revenus aussi de pays lointains. Bon. Et au début, c'était très compliqué. C'était un principe énoncé, mais il y avait beaucoup de monde qui n'arrivait pas à y croire. ou que penser, ah ben non, non, je ne vais pas me voir en réfugié. Ça me ferait comme être à la retraite, comme devenir, je ne sais pas, un ancien combattant, ou d'autres, même, ils pouvaient penser qu'aurait pu être considéré une forme de désertion par rapport à son propre rêve. Et d'autres, ils n'y arrivaient pas à y croire, ils disaient, il doit y avoir un traquenard. On se pose, on se met au grand jour, et puis quand ils veulent, ils nous attraperont. D'autres qui pouvaient penser, s'ils ne nous attraperont pas, c'est parce qu'au fond, on finira pour être instrumentalisé comme des fleurons à la veste d'un État démocratique capitaliste moderne ou d'une forme de. Comment dire, de réformisme qui n'est pas notre tasse de thé. S'il y avait, ça, c'était compréhensible. C'était comme si beaucoup disaient, moi, réfugié, pas du tout. Et puis, il y avait, par contre, d'autres, puisque la chair est forte, comme le dit Zhivago, qui, par contre, pas par méchanceté, mais ils étaient amenés à faire des distinctions, à dire, ben, nous on reste, maintenant nous on est là, on ferme la porte. Ça se passe aussi, on les connaît. Ou alors, oui, mais il y aura des indéfendables. Nous, oui, mais comment c'est pensable de pouvoir obtenir qu'ici, il reste des gens qui ont des accusations pour des faits très graves ou qui est membre de l'une ou d'une autre organisation clandestine spécialement visée. Tu comprends, c'est comme ça. Alors, moi et une poignée d'autres, on avait considéré que il fallait une dose de réalisme, c'est-à-dire on sortait tous d'une espèce de... Comment on peut appeler quelqu'un a appelé les années 70 en Italie comme un merampin prolongé à l'infini. Mais et ça ne peut pas ne pas entraîner, c'est évident, une dose de pouvoir contre pouvoir, une dose de violence de tous côtés. On a parlé d'une longue onde de choc, d'une subversion sociale qui avait branlé l'ordre et les institutions sociales de tout type d'un pays à démocratie capitaliste moderne, d'un État. La commission même, justice... non, justice, la commission sur la violence politique du Parlement italien, au fond, a fini pour conclure qu'il se serait agi d'une, guillemets, petite guerre civile qui a intéressé une très forte minorité, mais consistant, ils disent dans leur langage, de la jeunesse, et que ça a été une guerre civile à basse intensité. Et moi, j'aimerais plutôt parler d'une espèce de latence insurrectionnelle, comme on dit en médecine, sous-aiguë et chronique. C'est-à-dire quelque chose d'endémique, pas une insurrection au sens... ici, ça commence l'insurrection. Mais un état insurrectif, on pourrait dire, dans lequel le caractère de lutte c'était subversif. Et ça, c'était une aventure et un destin commun. À l'intérieur, il y avait toutes les possibles fraternités ennemies, des rêves différents, des cultures différentes, des pratiques différentes, mais il y a un dénominateur commun qui a été une espèce d'assaut au ciel, et pas pour, je ne sais pas, aboutir à un nouvel État. Quelqu'un peut-être y pensait, on va faire le socialisme dans un seul pays avec un État, mais c'était pas ça. C'était quelque part une espèce d'éruption, de bradicisme de social et qui s'était installé. Vouloir interpréter ça, qui a sécrété et sédimenté à la fin 5000 prisonniers politiques, on peut les appeler prisonniers politiques ou les autres dire terroristes, en tout cas, des gens qui accusaient de beaucoup de choses, dont des associations subversives, insurrections, bandes armées. Donc, c'est que dans les codes italiens, c'est classé délit et crime contre la personnalité interne de l'État. Alors, ça s'appelle dans les langages bourgeois, si c'est pas le politique par excellence. Et puis, des gens, on a été accusés de beaucoup de après, faits spécifiques, pratiques, matérielles, mais sursanctionnés avec une des lois spéciales qui appliquait multiplicateur de peines par à égalité d'infraction, de délit ou crime, si la sentence considérait que tu avais agi, guillemets, pour des fins de subversion de l'ordre constitutionnel ou de terrorisme et subversion, la peine était augmentée, c'est beaucoup plus que les aggravations ordinaires, non, d'une façon faramineuse. Donc, il y a eu un processus de ce genre. Quelque part, une sorte de révolution. Les révolutions, d'habitude, ne sont pas celles qui se terminent par une victoire qui annonce, c'est passé comme ça dans l'histoire, la plus parfaite auto-démenti, c'est-à-dire comme les révolutions qu'on connaît, qui ont abouti à avoir une révolution qui se transforme du fait même de vouloir se poser comme étatique ou économique, entrepreneuse, etc. Elle devient le contraire de ce qu'elle avait affiché. Mais il y en a eu d'autres, peut-être la plus grande, ça a été la Commune de Paris. Alors la Commune de Paris a un grand avantage qui n'a pas soi-disant gagné, donc n'a pas commencé à tourner au sens inverse, à être une contre-révolution habillée en révolution, et qui ne s'est pas autodétruite, qui a été détruite par l'ennemi. Ça pourrait donner lieu à une expression amère en disant « mais alors ce que tu dis c'est qu'il n'y a que les révolutions perdantes qui ne deviennent pas la pire, le pire vaccin contre-révolutionnaire. » Non, ce n'est pas un destin inscrit nulle part. On n'a pas aucune promesse qu'il y aura une révolution totale, anthropologique, etc., ni aucun sortilège qui dit que c'est fatal qu'il ne puisse pas y en avoir. Je dis simplement que la Commune, en tout cas, n'a pas eu le temps de s'autodétruire et qu'elle a été détruite pour l'ennemi. Donc, ça reste, comme l'avait dit Marx aussi, à un certain moment, la forme finalement découverte d'une possibilité radicale qui n'est pas de changer de forme de gouvernement, de régime, de sous-dessus, des couleurs du drapeau, et si le patron est privé ou s'il y a un patron État et tout, mais passer, que ce n'est pas ni une utopie, ni une chose pour demain, c'est une ligne directrice, comme le dirait Foucault, d'une idée d'un monde qui certainement n'est plus naturel pour l'espèce humaine. À tort ou à raison, elle est sortie de l'inné, de l'instinctuel, de l'animalité. Et c'est une espèce que Sloterdijk a récemment appelé l'humanité un animal de luxe. Lacan disait les par-lettres, on pourrait dire les paroles éthères. Bon, c'est-à-dire la seule espèce qui a laissé des traces dans les biens et dans les mals. Qui peuvent être des pyramides ou toute l'intervention humaine assez violente sur la nature. Même quand on dit on va dans la nature, c'est déjà hyper travaillé par les révolutions agraires, etc. Et en même temps, il n'y a pas d'autres espèces vivantes qui ont été capables d'autodétruire quelque chose comme 600 millions de ses propres composants dans ce que pour les humains qui calculent le temps, c'est trois quarts de siècle, à partir du début de la guerre de 14-18 jusqu'à la fin du siècle dernier. Donc cette espèce, je risque de m'élargir, elle produit des deuxièmes, troisièmes natures, un espèce de double qui se mélange au monde au sens naturel, cosmologique, une machine monde, et une machine sociale, et des institutions, des trucs, etc., de la destruction, et où il est écrit que c'est impensable qu'il puisse passer réellement d'un rapport gouvernant-gouverné, exploiter-exploité, hiérarchie, représentant, personne qui gouverne le destin des autres, à mettre en œuvre un autre principe par rapport à celui-là, par exemple, de la capitalisation ou de l'étatisation, un principe d'autonomie, d'autonomopoiesis, on dirait, de création, c'est-à-dire l'autogouvernement, c'est le contraire que le gouvernement, gouverner sur. La puissance, c'est le contraire que le pouvoir sur. Et donc, on pourrait penser à la mise en place d'un opérateur par rapport auquel le principe de la capitalisation, c'est misérable, d'un opérateur qui est l'autonomie, ou autrement dit, c'est la puissance de l'espèce humaine qui est présente dans chacun de ses composants et dans l'ensemble, qui puisse devenir une communauté des autonomies, une autonomie en commun. Donc il y a un principe évidemment dans la singularité de l'autonomie de chacun, ou bien on pense comme Stirner à l'unique, ou bien c'est pour la mettre en commun, en communance, il faut qu'il soit capable de s'auto-relativiser pour s'agencer avec les autres. Bon, là c'était un peu une apparente divagation. Donc j'ai dit l'Italie de ces années-là, ça pouvait être une sorte de justement insurrectionnalité permanente. Il y a eu beaucoup de, comme tout, ce qu'on appelle l'histoire, c'est un brouillon, comme si tu parles des humains, c'est pas ni des anges ni des diables, ça n'existe pas, comme le disait Camus, il vit à moyenne hauteur, et comme ça c'est la vie des sociétés, et comme ça c'est même les révolutions. Bon, donc à la fin de tout ça, il y avait eu un destin commun, donc nous on disait, ici, pour revenir à nos petits... nous, on dit, oui, une révolution peut connaître une défaite. Et c'est une forme de volontarisme à dire, ah non, non, j'ai fait une dénégation pure, il n'y a pas de défaite possible. Non, oui, il y a la chanson, oui, mais ça branle dans la manche. Il y a l'autre, Nicolas, la commune n'est pas morte. Mais si quelqu'un prétendait de dire non, non, on n'a pas gagné, demain on fait l'assemblée, ça serait comme ça. On peut être écrasé, on peut être battu, vaincu, et il ne faut pas renverser la cause et les faits. Dire que parler de défaite, c'est la créer, et que ça suffit, nier qu'il y a défaite et que la défaite n'existe pas, bon, c'est de belles paroles. Il faut, oui, par moment, faire comme si on n'avait pas essuyé une défaite. Il ne faut pas s'en laisser écraser à jamais, mais il faut aussi la voir. Ça, c'est la pire des choses. Donc, il y avait des copains, c'est compréhensible, qu'ils disaient comme, si on parle de défaite, chose qui est à l'origine de reconnaître la condition d'exilé, auto-exilé, asilé, ça c'est une espèce de reddition. Donc c'était un état d'esprit compréhensible. Mais entre ça et l'attitude qui disait il y a des indéfendables, nous on a dû se battre bec et ongle pour dire non, oui on est des réfugiés, oui il y a un asile, oui bien sûr que c'est un état qui nous le donne, un gouvernement social-démocrate, ce n'est pas le problème. Nous, on ne lui doit rien, mais ça existe et le problème c'est que c'est impensable pour nous accepter qu'il ne soit pas pour tout un chacun. Alors, il y avait qui se moquait en disant « Ah oui, oui, tout un chacun » en faisant une chansonnette comme pour dire que nous on disait « tous aux personnes » et il disait donc « il finira pour être personne ». Non, ce pari avait tenu. Peut-être... on s'est beaucoup bougé, peut-être, qui sait. Peut-être on avait enfoncé une porte ouverte parce que la dite doctrine de Mitterrand, qui n'était pas une promesse à nous, c'était une politique énoncée dans laquelle nous on s'est inscrit, peut-être qu'à un certain moment était devenue exception française. C'était pas un problème, elle n'avait pas une couleur de gauche rose ou bleue, parce que le réalisme, on a entendu dire qu'à un certain moment, dans des remémorations de l'époque, dans des interviews des uns des autres, qu'à l'époque, les techniciens de l'ordre public, les grands flics, ils disaient, on a tellement de chats fouettés de tous bords qu'on se trouve ici un fait accompli qu'il y a 700-800, je ne sais pas combien, d'Italiens qui sortent d'un chaudron comme ça. S'il se met au grand jour, c'est bon. Si on commence à en extrader quelqu'un, on pousse le reste vers une replongée dans la clandestinité. C'était ça qui les inquiétait le plus. Tu crées, tu mets au dos du mur des centaines de personnes qui sont traquées avec la police de leur pays, aux trousses, etc. Tu ne lui permets pas de respirer, ça peut devenir un potentiel. Si j'avais dû penser que c'était un potentiel, une étincelle d'un processus révolutionnaire, moi j'aurais eu tort à ne pas jouer une politique du pire. Mais je ne pense pas que ça aurait été, cette étincelle aurait été le commencement d'un autre cycle de douleur, de défaite à chaîne, à réaction en chaîne. Donc on a dit oui, on joue le pari, on défendra bec et ongle. Tout un chacun systématiquement, sans en étant intraitable sur toute distinction, c'est ce qu'on a fait. Jusqu'à 1994, ça avait tenu, avec la précarité, on avait été déjà beaucoup, à commencer par moi, passé à la chambre, mis sous extradition, mais à la fin, ou bien par des raisons qui tiennent du juridique, je ne rentre pas dans les détails. Il y en avait un certain nombre qui avait eu un avis défavorable à l'extradition, donc considéré inextradable par la juridiction préposée à un contrôle de conformité. D'autres qui ont eu un avis favorable à l'extradition, ça signifie pas extradeler, ça signifie dire si le gouvernement qui est compétent sur la décision, il veut les extrader. Il n'y a rien qui a un feu vert, ce n'est pas illégal et antijuridique. Mais au fond, on n'avait pas donné cours à aucune extradition. Et puis il y a eu les cas iniques de Paolo, je ne reviens pas dessus, Paolo Persichetti, qui sans même pas des raisons ou des critères, qu'en tout cas nous n'aurions pas accepté, il a été le poussin noir et c'était inique. C'est qu'à un certain moment, je n'en parlais beaucoup de fois, je ne rentre pas dessus, mais peut-être c'était la conjoncture, c'était la fin de la fin, le roi meurt, comme Mitterrand était mourant. Balladur peut-être s'est préparé à trouver des arguments pour contrer la remontée de Chirac derrière. Il lui est passé devant un décret, et il a apposé sa signature. C'était plutôt comme frapper un coup dans les dos plutôt de Mitterrand et utiliser Paolo comme un chiffon à jeter pour un jeu de dés politique. Paolo, après, il a dû se remettre au vert. On a choisi ensemble qu'il ne pouvait pas se remettre à faire les fouillards, donc on a essayé de mettre les racines. Il a repris une vie publique, même si formellement il était recherché, puisqu'il avait un titre exécutif bon pour l'estrader. Non, il s'est inscrit à la fac, il menait une vie de militant, évidemment, dans un cadre, en traversant sur les clous pour ne pas se faire adresser la parole par un flic, mais en prenant position, on a écrit ensemble un livre, il a écrit des choses, etc. tout ça a tenu parce que ça gênait cette iniquité. Donc même les gouvernements qui se sont succédus, même avant Jospin, quand tout bon était le garde des Sceaux de Juppé, ils avaient dit effectivement c'est une iniquité, mais on ne peut pas annuler ces décrets. Il devient jamais périmé, caduque, donc on fait mine de ne pas les voir. Et puis, vous tous savez qu'est-ce qui s'est passé après l'alternance. C'est même pas nécessaire d'aller penser à je ne sais pas quel complot, c'est la raison d'État, c'est cruel. En réalité, il y avait à déclencher la chose, pas seulement une logique d'alternance, mais une tentative abjecte venant d'Italie de construire un montage contre lui qui est tombé à l'eau d'une façon misérable, mais ça a mené à le fait accompli qu'il a été extradé en Italie et qu'encore aujourd'hui on n'arrive pas à avoir ce qui serait de son droit, disons, l'application des critères d'aménagement de la peine prévus par la loi de réforme carcérale en vigueur en Italie.
Alors voilà, on continue avec l'autre actualité de l'Italie, c'est la grève de la faim qui a entamé Oreste Scalzone le 7 avril. Grève de la faim qui a lieu à l'espace Louise Michel. L'espace Louise Michel, c'est 42 bis rue des Cascades, dans le 20e. On peut y aller par le métro, Pyrénées ou Jourdain. Et tout le monde est invité à y passer. Alors pour ça, ils ont un peu aménagé des horaires pour épargner un petit peu la santé d'Oreste. C'est tous les jours de 18h30 à 20h où les gens sont invités à le rejoindre. Alors on écoute la suite de l'interview d'Oreste.
On a ici parlé pour plus qu'une demi-heure des prémices à un des tenants et aboutissants. Donc évidemment c'est comme quelque chose qui commence avec une tête hypertrophique. Et puis c'est complètement disproportionné. Je pense que comme on a des contraintes, j'ai dit, là c'était comme les volets rappel des faits sur les conditions de départ concernant notre condition locale de réfugiés. Maintenant, on fait une sorte de transition et dans un temps énormément brutalement raccourci, on parle de l'ensemble. Mais je proposerai qu'on fasse une autre volet, une autre suite, parce que sinon c'est complètement illogique, je le dis. Alors, disons, j'ai parlé de la condition des réfugiés, alors j'ai dit d'une façon brutalement raccourci qu'est-ce qui s'est passé après. On dit l'après, la logique, l'après 11 septembre, etc. C'est que Paolo, c'était presque un présage, mais après, il y a eu, avec toute l'année, l'annus horribilis de l'extradition Battisti, même avec l'élément heureux qui s'est soustrait de son corps à son exécution, et après les menaces explicites et judiciaires d'autres extraditions, les cas de Roberta Capelli, des autres, ça dure depuis un an. Rien que moi, je pense d'avoir fait à différents moments 10 heures sur FPP, donc je ne reste pas là-dessus. Je dis simplement qu'on se trouve, surtout si on raisonne, d'une façon en essayant d'être comme si on était froid, après la dernière fin du dernier recours de Battisti, de Cesare Battisti, et donc le rejet du recours de la part du Conseil d'État, on sait que les 12 réfugiés qui sont menacés d'extradition, on ne sait pas exactement qui c'est, mais les critères sont clairs, et sont vraiment à risque total. Autrement dit, pour extrader Battisti, ils ont dû passer outre les règles du droit, carrément, ça a été un putsch judiciaire. Le fait, moi j'ai fait de longues polémiques internes, che in gran parte, par contre, della campagna sull'opinione pubblica, perché a livello di combat judiciaire ça a été impeccabile, non peut rien regretter, on peut gagner ou perdre, on a perdu. Pour le reste, il y a eu beaucoup de choses, à mon avis, très contre-productives qui ont été utilisées dans sa campagne, mais ça serait cruel de revenir dessus aujourd'hui. En tout cas, je pense que ça a été grave parce que c'est toujours mieux si on doit perdre en disant des trucs pertinents que perdre après avoir raconté des conneries. Mais je ne pense pas qu'il faut attisser des regrets ou des récriminations quant à l'issue. Heureusement qu'il y a, si jamais on avait des polémiques à faire, mais qui ne touchent pas en question morale, c'est une question de jugement critique sur des périodes historiques. S'il peut avoir lui aussi dit des facilités qui, au point de vue de ce qu'on peut apprendre aux gens, à mon avis, ce n'était pas vraiment le mieux à répandre, mais on peut dire qu'il a eu en revanche ce bon réflexe sain, humain, de se soustraire, de ne pas rester comme un oiseau hypnotisé par les serpents à la merci de ces gens. Qui, en plus que tout, bon, c'est l'État, le monstre froid, on sait qu'est-ce que c'est, la raison d'État. Mais en plus, c'est même, par moments, il peut y avoir un ennemi qui respecte certaines règles. Mais là, non, c'est une forfaiture pure. Ils ont fait des lois spéciales qui ont permis de multiplier la peine comme règlement de compte après l'insurrectionnalité que j'ai dit d'une façon faramineuse. Moi, je n'ai jamais joué, moi, l'innocent. Mais c'est vrai aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient, si c'est pour ça, condamnés sans preuve, sans indice, et que peut-être vraiment ils n'y étaient presque pour rien. Mais quand il y a la responsabilité objective, etc., c'est un multiplicateur faramineux. Alors, à l'époque, on disait que la nécessité poussait à cette espèce d'état d'exception hypocrite et inavoué, parce qu'il y avait un risque d'ébranlement de l'ordre public. Ce n'est pas politique, ça. Aujourd'hui, on dit qu'il y a un état d'urgence exactement à l'inverse. On reprivatise la chose. C'est les partis civils qui réclament d'aller arracher la vie des gens aux quatre coins du monde parce qu'ils ne peuvent pas respirer s'il n'y a pas une punition maximale des gens qui ont été condamnés comme les assassins de leurs parents, etc. J'ai dit, tout ça c'est compréhensible dans le fond de ce qu'est l'âme humaine, mais même dans son autodéfinition, l'État, la justice pénale, n'est pas là pour ça. Il évoque une fonction, et dans les dictionnaires de l'État, il y a des mots comme amnistie, asile, prescription, grâce, ça fait partie. Et c'est même théorisé dans les constitutions, c'était comme ça, que ça ne signifie pas nier ce qui est le cri qui demande justice, ou si tu veux que c'est un besoin de vengeance de la partie. Il est théorisé que si l'État fait une amnistie, si la France a fait une amnistie 6 mois après les faits de la grotte de Ouvéa, c'était parfaitement prévu en constitution et ça n'était pas une espèce d'insulte aux victimes des deux côtés. Ici, on boucle la boucle, on a créé un état pour d'âme sociale, parce que c'est beaucoup une espèce de maïotique terrible, qui fait qu'il semblerait qu'il y a un seul horizon, la vengeance, il y a un seul scandale, l'impunité, c'est plus grave que le mal. Il y a une espèce de toxicomanie sociale qui est créée dans les modèles sociaux anthropologiques en place. Il y a une seule idée générale qui est jetée de tous côtés. Un besoin toxicomane de punition maximale. Chacun a quelqu'un à punir. Chacun, il est attissé à se poser en victime de quelqu'un d'autre. Chacun. Un contre un contre tous, tous contre un, la boucle est bouclée. On disait qu'il fallait les institutions, l'État, etc., pour régler la guerre de tous contre tous, chacun est loup à l'autre, et ici chacun devient virtuellement, si on pousse à la limite, un léviathan de l'autre, et tous à la fin on demande l'impossible, parce que c'est comme les patriotes, si je dis ma patrie sur tout, et toi en face tu dis la même phrase dans une autre langue, c'est à cause de cette parfaite identité qu'on ne peut que s'entretuer, que s'annihiler. Alors, en Italie, on avait une situation dans laquelle la simple application d'une prescription qui était des droits à trois militants condamnés pour un homicide involontaire qui s'était un déroulement des faits, la condamnation c'était homicide involontaire, condamné, l'application de la prescription 30 ans après avait soulevé il y a un mois en Italie un tollé, un scandale mais dégoûtant, dans lequel les maires de Rome du parti DS qui vient du parti communiste, il semblait un type de la Ligue du Nord menaçant d'interdire l'entrée à Rome des gens même si elle avait la qualité légale pour rentrer. Des mots comme amnistie étaient presque considérés criminels. Je ne sais pas s'ils avaient été plus cohérents, ils les auraient enlevés de la norme, de la Constitution, etc. Et bien, tout d'un coup, s'est ouvert une fenêtre. Ça, en Italie. Nous, ici, on a ces problèmes qu'on sent arriver, on sentait arriver. Les menottes se serraient sur les poignets de quelqu'un d'autre, les prochaines après Battisti. La possibilité de les résoudre dans le sens classique d'une ligne de fuite, c'est même pas à discuter, tu peux pas imposer des choses à des personnes, c'est la vie, c'est comme ça. D'autres idées, trouvailles, grimper sur le miroir, type mon idée que j'avais lancée à corps et à cri, je me porte comme, je propose un échange, comme quelqu'un qui se propose un échange d'un autre otage. Comme ça, si vous, le Moloch a besoin d'un bouc émissaire symbolique, avec toutes les méprises, c'est comme s'il y a quelqu'un, tu dis, ben, je me porte en otage, tu ne légitimes pas l'autre. D'autres idées, l'idée de proposer, alors qu'on constituait une espèce d'ensemble de volontaires qui disaient, au lieu d'arracher la vie d'une, deux, trois, quatre personnes pour les faire croupir à la perpète dans les géoles italiennes, on s'en va à 40 ans, 50, un peu à la façon Louise Michel, etc., à faire du travail social à quelques bouts du monde. Rien n'est marché, alors c'est ouvert une chose qui ne tient pas de nous. Marco Pannella, qui est un peu une figure, si tu veux, du laïcisme bourgeois, libertarian, libéral libertaire, et que c'est un type qui, c'est depuis 40 ans qu'il joue les grèves de la faim, cette forme d'action, etc., qui était à l'origine de toute une série d'essais qui sont définis, des conquêtes sur les plans des guillemets droits civils, l'avortement, etc. Et que, il faut dire, sur d'autres thèmes, on se trouve vraiment à l'opposé, mais sur les prisons, il a été toujours sensible. Il a joué un coup de dé, de grand cabotin, mais avec un courage physique qu'il a, che au moment de la mort du pape, lui le considérait vraiment, de dire un appel à toute la classe politique italienne en disant ici ça semble devenu la République de Khomeini, vous êtes tous à applaudir, à plaider à cet homme, c'est une mauvaise répétition d'une scène que j'ai déjà vue. S'il y a une chose qui serait due par vous à cet homme, c'est qu'il y a 3 ans, au moment du jubilé, il était allé à la prison de Rome, il avait supplié d'une mesure de clémence et d'amnestie. Vous vous êtes moqué de lui, les gentolards qui avaient lu les saluts au pape, il pensait de sortir, il est mort en prison. Et un an et demi après, il est venu au Parlement, réuni à Chambre Unie, il a conclu son discours en demandant une amnestie. Et vous l'avez submergé d'applaudissements et puis vous avez rien fait. Vous n'avez pas honte. Moi, je me mets en grève de la soif pour vous permettre de faire ce que vous avez à faire, une amnistie générale. Alors, ça a renversé le vent. Et c'est un peu comme ça, le trend de conformisme social. Alors, projet de loi d'amnistie signé par quatre sénateurs à vie, un ancien président de la République, des anciens présidents du Conseil. C'est vrai, des vieux démocrates chrétiens, un prix Nobel, etc. Projet d'amnistie, un autre qui court derrière un peu de la part de la gauche, résistance de la Ligue, Panella qui continuait en disant je me méfie, je sais comment ça se termine, et finalement ils ont décidé de le mettre dans les calendriers parlementaires. Ça sera discuté la première fois mardi 19. Ça sera probablement une mesure qui ne nous concerne pas du tout. Une amnistie pour des délits jusqu'à 4 ans. Les nôtres, ils ne font pas partie. Les berlusconiens, ils veulent jusqu'à 5 pour insérer les délits financiers. La gauche, il veut se tenir à 4. Tu sais, c'est le spectacle de politique. Puis, il y aura peut-être un indulte, c'est-à-dire qui élimine que les peines généralisées de 2 ans. Ça ne nous concerne pas parce que nous, on sera exclus, comme les crimes contre l'humanité, la pédophilie, les crimes honteux et les terroristes. C'est-à-dire, ça serait nous. Mais c'est pas ça le plus grave, ça c'est une évidence. On dira jamais, ah ben nous on est un vieux, parce qu'il y a 15 000 qui étaient les plus marginaux, etc., extra-communautaires, qui sortent. Plus il y aura aussi des militants, parce qu'il y a 18 500 procès pour 5 000 personnes pour des faits de roue. Mais ça devient, pour nous ça peut sembler de la petite chose, mais qu'est-ce qu'on fait, l'aristocratie des gens qui ont des crimes les plus graves? Donc c'est bien si ça libère, mais ça vient mon problème. Là, ça restera, sans vouloir dire nous et se greffer dessus et peut-être tirer vers le bas, tout ça repropose un problème qui est parfaitement intact, ce d'une solution politique pour... Par contre, les 5 000 condamnés, ou combien on est, avec l'application des aggravants, c'est-à-dire des gens définis par les antiterroristes, par les autres prisonniers politiques, comme l'on veut. Là, ça reste un problème. Alors, moi, j'ai inscrit dans l'espace ouvert par Panella un truc de nature différent. D'abord, j'ai pas son type de courage physique et de détermination, et surtout sa carrure. Il est parti à 115 kilos, il a perdu 15 kilos, 9 jours de grève de la soif, ça fait peur. Moi, dans mes petits 48 kilos et demi de départ et mes conditions physiques, même si j'ai 20 ans moins que lui, si je faisais une grève de la soif, à mon avis, on m'envoierait direct à l'asile. Mais je fais une grève de la faim. Et surtout, c'est pas jusqu'au boutiste, parce que je ne prends pas, je n'ai aucune dialectique avec l'État. Panella, il parle à ses pairs. Moi, si je m'engouffrais à réclamer quelque chose à l'État, les monstres froids, d'abord, ça serait une forme de dialectique, et puis, je sais, il dirait, une démocratie ne peut pas céder au chantage d'un seul, en plus d'un ennemi de l'État. Donc, ça serait se mettre dans une condition, ou bien d'être un peu charlot, ou bien de mettre à risque sa propre vie. C'est pas du tout ça mon intérêt. Moi, je prends comme contrepartie les mouvements. Mais les gens de tout type, frères, maîtres, frères aînés, frères plus jeunes, teneur, homonyme, frère ennemi, adversaire, qu'est-ce que c'est qu'on appelle le mouvement, the movement, le mouvement des mouvements, etc. Moi, je milite depuis 60, ça fait 44 ans. En plus, à mon avis, même s'il le faisait le plus anonyme, ça... quelqu'un qui dit, je me mets en grève de la faim, pas pour faire un chantage et dire sur vos journaux, vos radios, etc., vous devez dire ce que je dis, me donner raison, ça serait terrible. Non, mais je dis à des hommes et des femmes publiques qui parlent, qui ont des radios, qui ont des journaux, qui sont des dirigeants politiques, des mouvements, d'associations, etc. Donc c'est leur métier, leur vocation, comme la mienne d'ailleurs dans un autre cadre. Je lui demande qu'il parle, pas qu'il dise ça ou ça, qu'il réponde à des questions. Parce que c'est 25 ans, et surtout dans la dernière année, dès que tu soulèves une question, tu n'as pas le plaisir d'entendre dire, je ne sais pas, vous êtes des terroristes, restez où vous êtes. Non, d'entendre dire, mais bien sûr, vous avez raison, mais le climat, c'est défavorable. Le climat, j'entends parler des conditions météorologiques, de Wettergeist. Et bien maintenant, le climat s'est changé. Le vent a tourné, si c'est pour ça question de climat. au moins qu'on me sorte un truc comme des staliniens qui c'est super structurel, non? Alors, il ne manquerait que des gens qui parlent de société du spectacle ou de capitalisme cognitif ou d'autres qui parlent de la vidéocratie dans cui ils trouvent que le fait que Andreotti, qui était le plus longeve premier ministre en Italie, il dit « Je suis repenti d'avoir fait une loi à 92 qui portait les corons pour voter un amnistie ou un indulte à la majorité des deux tiers, il faudrait revenir à la moitié. » Le fait que ces gens-là, ils demandent une amnistie et dédouanent ces mots qui étaient devenus criminels, même si ça ne nous concerne pas, ne me dites pas que le climat, pour ceux qui vont en climat, c'est vraiment renversé. Donc maintenant, je ne demande que, est-ce que je dois continuer, moi, pour dire, parce que c'est moi qui à être, à écouter ce silence assourdissant, ou bien on peut dire qu'on met en discussion d'inscrire dans cet espace ouvert, cette brèche, cette béance ouverte par une initiative comme celle de Panella, dans un langage vous pourrez dire un bourgeois qui ouvre ses trucs, on s'inscrit pour poser nous les problèmes des prisonniers sociaux, politiques, comment tu veux les appeler, de cette insurrectionnalité permanente des Arlènes 70, qui aujourd'hui ou jamais, ou vous me dites que le climat c'est pas bon, il faut attendre. Alors dites que vous pensez que nous, à différence de quand vous dites qu'il faut comprendre la résistance irakienne. Par contre, des gens qui sont rentrés en lutte, qui sont arrivés jusqu'aux armes pour abolir le rapport de capital, l'État, pour, si tu veux, un rêve, qui en plus est une idée directrice, d'autonomie humaine, ces insurgés-là, ils sont voués à devoir payer jusqu'au bout que même pas la norme ordinaire que 30 ans, 25 ans après, c'est normal une amnistie, ça vaut. Eh bien, dites-le, parce que au moins on saura avec qui il faut compter, qui est vraiment contre, c'est pas que on va pleurnicher, mais ouvrez la bouche, articulez des choses, pas par téléphone avec moi, irrécevable. Si vous voulez dire quelque chose, ça soit pour commencer au moins un email, comme ça, ça peut être publiable. J'ai dit, j'ai décroché un résultat. Panella, il a arrêté, mais c'est pas la même lutte, donc moi, j'étais pas obligé à arrêter avec lui, ni je suis jusqu'à boutiste, si je continue. Il a suspendu sa grève quand il a vu qu'il a obtenu tout, pour ce qu'il demandait. Et moi, j'attends encore des réponses. Mais il y en a une, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, mais surtout des gens de base. J'attends encore des teneurs, je publierai une liste en disant, je m'attends de ces gens-là, c'est moi que je vous dis, je suis en grève de la faim, je vous demande une chose qui ne devrait se refuser à personne, comme une cigarette, ça serait décent que vous parliez sans que quelqu'un vous mette un couteau pour te dire, parle, qu'est-ce que vous répondez? Comme si vous étiez devant la police américaine, je me prévaux de la faculté de ne pas répondre. Un type qui est fait pour parler, qui fait de la politique, qui fait l'opinion maker. Ce n'est pas que tu veux lui faire le chantage de dire ce qu'il doit dire. Tu dois dire, il faut que tu t'exprimes, si tu permets. Je ne redemande rien d'autre. Ma grève, ça peut avoir un issue tragique, mais pas, ne faisons pas du mélodrame, tragique pour moi. Je pense que c'est les gens, quand je publie, je dis une liste à laquelle, avec bonne grâce, je m'adresse pour dire parler. Si 4-5 jours après, ils n'auront pas parlé, moi je pense que l'issue tragique, ça sera le leur, parce que c'est ingérable. Quelqu'un me disait, mais c'est désespéré. Ah, tu considères que c'est comme si j'ai demandé quelque chose au monstre froid d'État, mais alors ces gens-là sont disponibles à être considérés des espèces de nazis, je ne sais pas, qui laissent mourir quelqu'un qui lui demande rien que de dire ce qu'il pense d'un truc sur lequel il devrait s'exprimer de leur fait. Moi, je suis optimiste pour ça, il n'y a pas de jusqu'à-boutisme, je pense. Donc je continue parce que je vais lui permettre de ne pas avoir un issue tragique, tu comprends, d'être considéré dans une situation ingérable. Je ne pense pas qu'ils sont si cons. C'est ça mon truc. Et on est en train de discuter, on discutera des initiatives de l'ensemble, d'un groupe de personnes, ensemble, non, c'est multisingulier. Ça sera au lieu qu'une personne, ça sera peut-être 10. On prendra des initiatives. Et puis, alors, cette initiative, ils ne seront pas un bras de fer à outrance contre un État, ils seront des initiatives de sensibilisation sur les problèmes d'une solution politique, d'une amnistie en Italie, sur les problèmes du moratoire sur les extraditions. Et il y a aussi beaucoup de soutien français. C'est pas français, c'est francophone, c'est pas nécessairement français, parisienne et des autres villes, qui pourra trouver des formes d'action. Bien sûr, le terrain donné, c'est une action de forme d'action directe non violente. Moi, je pense que c'est le plus efficace. C'est ça la logique. Après, si on fera un autre volet, je parlerai aussi, par contre, des réponses, une analyse des réponses que je reçois. Déjà, je remercie même la plus féroce des réponses, c'est mieux que les fins de non recevoir, mais il y en a certains qui se prêtent, je dirais, à une critique assez pointue. Je vous remercie et salut.
Voilà, c'était donc Oreste qui a essayé de faire court pour expliquer la situation, comme vous avez pu le constater. Donc Oreste Salzone, on le répète une fois de plus, c'est en grève de la faim, pour des raisons qu'il vient de vous expliquer, je ne m'aventurerai pas à refaire l'explication. C'est depuis le 7 avril qu'il a donc cessé de s'alimenter. Et puis ça se passe à l'espace Louise Michel, 42 bis rue des Cascades, dans le 20e à Paris. Vous pouvez donc passer de préférence entre 18h30 et 20h tous les jours.
Excusez-moi si j'ai fait un truc un peu long.
Voilà, misère des génériques, on sait pas ce qu'on a fait d'une autre, donc on a piqué un générique à Thomas Tesch en attendant. C'était donc Les Oreilles Loin du Front, on se retrouve la semaine prochaine à 19h pour une nouvelle édition de l'émission avec Maurice Rachfus qui viendra de nous parler de son livre Le Chagrin et la Colère qui vient de paraître au Cherche Midi éditeur. Voilà, bah merci tout le monde, à la semaine prochaine, on vous abandonne dans les bras d'Écho du Capricorne.
Si j'ai fait un truc un peu long, on revient au réseau.